Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société. Pour accomplir cette difficile mission, il a créé une émission, c'est Ludovision.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ludovision, deuxième épisode consacré à la série et sur les règles du jeu. Donc on a vu dans le précédent épisode, je me suis mis à écrire les règles et j'ai écrit une V1 des règles. Et comme j'avais dit, j'avais une idée bien précise, mais au fur et à mesure, je me suis beaucoup mis à douter. Nous allons aujourd'hui parcourir ensemble, étape par étape, les règles du jeu. Ces règles, je les ai envoyées à 5 d'entre vous. J'ai demandé en story Insta qui souhaitait le lire et donner des retours. Donc si vous voulez participer à la création, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'est pareil, je donne des petits avis sur les jeux, on voit mes parties, on voit que je gagne et perds beaucoup, notamment, mais voilà. Au fur et à mesure des étapes de ces règles, je vous lirai leur retour et à la fin, nous aurons un bilan de tout ça. Et c'est parti, on y va. Donc, posez-vous, prenez un petit thé, un petit café, de quoi grignoter. On va essayer d'y aller lentement, tranquillement, mais on va lire et un peu comprendre comment j'ai écrit les règles ensemble. Première étape, on l'a vu, l'aperçu et le but du jeu. C'est quelque chose que j'ai vite rédigé. Pour le coup, parce que j'avais déjà fait l'exercice de pitcher le jeu dans l'épisode 2. Donc finalement, j'ai juste eu à reprendre ça, le rendre plus court en 3-4 lignes, et les mettre sur papier. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc ici, vous insérez le nom du jeu. Est un jeu de deck building, où vous devez maîtriser votre chance pour assembler la meilleure équipe et remporter la victoire. Gérez vos ressources, recrutez des compagnons d'aventure, combattez des boss, mesurez-vous à vos adversaires, et exhiber votre magnifique collection afin d'être le meilleur de tous. Et donc voici les retours que j'ai eu des gens qui ont pu déjà lire la V1. Est-ce que la section aperçu et but du jeu présente bien le concept? J'ai eu des réponses non à 20%, oui à 40%, parfaitement à 40%. Donc majoritairement positif, mais les 20% il faut quand même les garder en tête de négatif. Le panel est petit, hein, 5 personnes c'est pas grand chose. Mais du coup, voilà, c'est, si on met à... Ça fait 20%. 20%, c'est énorme, c'est quasiment le quart, du coup. Ensuite, j'ai demandé, vous a-t-elle donné envie de jouer au jeu et de lire les règles? Parce que potentiellement, tu es dans un magasin, certains magasins laissent ouvrir des boîtes de présentation, tu lis les règles ou autre, il faut voir la suite, ou même, ça se trouve, si je montre un éditeur, il va lire que ça, il va s'arrêter, quoi, on sait pas. Oui à 80%, parfaitement à 20%, que du positif. Là, ça rassure, ça fait plaisir, tu te dis, ok, on a envie d'y aller. Évidemment, le panel est toujours un peu biaisé. Je sais qu'ils ont l'air d'avoir été quand même très objectifs, on le verra plus tard. Mais voilà, c'est biaisé, ils suivent le podcast, ils sont déjà intéressés un peu dans le jeu. C'est des gens qui ont voulu les lire. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, du coup, la deuxième étape dans les règles, c'est la mise en place du jeu. Cette étape, je ne l'ai pas écrite d'un coup, parce qu'en fait, j'y suis beaucoup revenu et j'ai changé beaucoup de choses. J'en parlais un peu dans le précédent épisode. C'est là où finalement, à chaque fois, je me disais « Ah, mais si on met pas ça en place maintenant, ça marche pas. » Mais là, ça fait beaucoup de mise en place. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de choses dedans. Donc là, je vais vous lire un peu tout ça, mais finalement, chronologiquement, ça s'est pas passé d'un coup comme ça, évidemment. Déjà, on rappelle que j'essaie d'adapter des mécaniques de jeu des gachas. Donc si vous avez oublié ce que sont les gachas, je vous laisse vous référer à l'épisode 2, évidemment. Donc déjà, il fallait que je puisse simuler et faire jouer sur la façon de recruter des personnages. Dans les gachas, on a souvent des bannières focus sur un personnage et ces bannières évoluent au fur et à mesure du jeu. Et je ne voulais pas que tous les personnages soient là dès le début de la partie. Et du coup, ça, vraiment, c'est quelque chose d'important parce que faut qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout. Si tour 1, on pioche le meilleur personnage, tu dis bon, ok, il a gagné, j'ai plus envie de jouer, ça n'a aucun intérêt. Même s'il n'y a pas un meilleur personnage dans le jeu, voilà, il y a des personnages qui sont plus forts, de meilleure rareté, etc., etc. Donc je voulais quelque chose vraiment d'évolutif au fur et à mesure qui permet un peu de dire ok vivement le tour 7 pour que là vas-y ou d'ici le tour 6 j'ai envie d'être comme ça après je sais que je peux y aller. Voilà, moi je voulais tout ça et surtout il fallait que je simule cette idée de focus quoi parce que sur les gachas on se dit ok c'est là j'invoque pas enfin voilà je vais pas gâcher mes ressources sur celle-là, je vais attendre la prochaine. Il y a tout ça qui joue. Je voulais aussi qu'on puisse se concentrer sur une faction plus qu'une autre mais laisser à l'aléatoire quand même assez de place pour se forcer à s'adapter à la situation. Donc pouvoir se dire ok je veux essayer de jouer absolument cette faction là parce qu'elle me plaît, c'est moi qui l'ai choisie, mais voilà je sais que j'arriverai jamais à 100%, avec comment je peux essayer de m'adapter pour quand même gagner la partie, pas être trop focus que là-dessus et être un peu large dans, pour jouer avec ça. Donc c'est ça qui va faire le sel du jeu. Pour moi, c'est ça qui fait le sel des deck building souvent. C'est tu fais avec ce que tu as. Et c'est aussi ce qui fait le sel des gacha. On en parlait déjà dans les autres épisodes. Ça, c'est hyper important. Il fallait aussi que chaque partie soit unique. Et c'est pour ça que j'ai pensé à des cartes événements qui permettront de mettre un peu de piquant à chaque tour de jeu. Mais il fallait que ces événements soient évolutifs également, parce que s'ils sont trop forts au début, ce sera un enfer. Qu'ils ne soient pas trop durs au début ou trop faciles à la fin. Je les ai donc divisés en trois catégories. Une seule carte arrivera à chaque partie, c'est la carte anniversaire. Les anniversaires, c'est quelque chose de récurrent et d'important dans les gachas. En général, bah, l'anniversaire, comme son nom l'indique, pour chaque... maintenant, il y a même des semi-anniversaires, mais bref. Tous les ans, à l'anniversaire, on a des nouveaux personnages et plein de choses qui se passent, des événements, des ressources données. Voilà, c'est la teuf, c'est le moment où les gens reviennent, c'est le moment pour les coups de com, c'est les gros moments de l'année où on attend tous impatiemment. Et je voulais vraiment que ça arrive et qu'on se dise vraiment, ah, vivement que l'anniversaire arrive. Pas qu'il soit un tour fixe, mais qu'il soit quand même dans un... Voilà, qu'on se dise, ah, quand est-ce qu'il arrive ? Parce qu'il peut arriver trop tôt, il peut arriver trop tard, il peut arriver pile au bon moment. Grosso modo, c'est ça l'idée. Et qu'on se dise vraiment, ok, vas-y, je t'empaule jusqu'à ce moment-là. Là, je claque toutes mes ressources à l'anniversaire pour avoir le perso que je veux. Comme ça, après, je suis bien pour la suite, etc., etc. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait les événements évolutifs, qui est des événements pré-anniversaire et post-anniversaire, parce que ça joue énormément. Et pour que, du coup, il n'y ait pas de choses qui soient trop chiantes ou trop speed au début, on se dit, ah ouais, ok, donc là, j'aurais pu pool de fou, sauf qu'on est premier tour, j'ai rien pour invoquer, quoi. Donc voilà, c'est pas l'idée. Et je veux vraiment que ce soit un jeu où tout le long, chaque tour soit nouveau, et chaque tour, tu te dises pas, ah, ok, bon, voilà, tant pis, je sais que je pourrais pas le faire parce que j'ai pas ce qu'il faut, quoi. Je veux que tout le monde ait sa chance à chaque tour et que on se dise pas, tour 5, déjà, ok, bah, c'est lui qui a gagné. Je veux qu'on puisse toujours rebondir pour voir qui gagne à la fin, quoi. C'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ensuite, il y a la partie... Je voulais que la partie démarre vite. Au tout début, je voulais pas que les joueurs commencent avec des cartes communes. Voilà, quand je dis cartes communes, c'est des cartes que... Il y a beaucoup de jeux où on commence avec des cartes dès le début qui sont toutes les mêmes. Sauf qu'après réflexion, bah, en fait, c'est vrai que ça, dès le début... Déjà, ça montrera une mécanique dès le début. Et ça, c'est cool. Et en fait, c'est que si quelqu'un, dès le début... pioche tout de suite une carte qui est super forte pour toute son équipe, je voulais pas que les autres soient lésés à 100%. Donc forcément, cette personne sera avantagée, mais je pense que ce le sera moins si dès le début on a une carte commune. Et c'est pour ça que j'ai instauré ce qu'on appelle le leader de base. Donc je reviendrai à ces termes-là plus tard dans les règles, vous verrez. Voilà, tout le monde commencera avec cette carte leader de base qui permet déjà d'avoir un peu tout le monde quasiment sur un pied d'égalité. Pour précision, chaque carte personnage a un effet de leader. C'est un effet qui viendra renforcer l'équipe et certains types de personnages. Par exemple, il peut être, voilà, c'est vraiment un exemple, attention, tous les personnages de telle faction gagnent plus en attaque. Et là, donc, l'effet du leader de base, je ne l'ai pas encore écrit, mais voilà, ce sera sûrement plus un PV à tel type de personnage, sûrement plus un PV à, je sais pas, la plus faible rareté du jeu, c'est ce qu'il y a le plus de chances d'avoir et ça permet quand même de scale dès le début. Donc voilà, ça c'est à doser, mais ce sera quelque chose du genre... Et du coup, j'avais tout ça en tête et j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Et du coup, voilà à peu près à quoi va ressembler. En fait, c'est à comment j'ai écrit la V1 de la mise en place. Première étape, choisir une faction. Chaque joueur choisit une faction qui entrera en jeu. Puis, ajouter une faction supplémentaire au nombre de joueurs. Donc, dans une partie à 4 joueurs, vous jouerez avec 5 factions. Deuxième étape, préparer la pioche commune. Séparer les cartes de base qui ont un bord gris. Donc évidemment, tout ce qui est couleur risque de changer, attention. Les cartes anniversaire au bord doré et les cartes premium d'eau dorée de chaque faction. Mélangez toutes les cartes de base avec une seule pioche commune. Faites de même pour les cartes anniversaire. Vous avez donc deux paquets de cartes, un composé de cartes de base et un autre composé de cartes anniversaire. Mettez le paquet anniversaire et les paquets de cartes premium de côté. Installez le paquet de cartes de base au centre de la table, il devient la pioche commune. Étape 3, préparez les pioches premium. Prenez les cartes premium précédemment mises de côté. Mélangez chaque paquet de cartes premium sans mélanger les factions. Vous obtenez une pioche premium par faction choisie. Placez-les au centre de la table. Étape 4, préparez la pioche événement. Triez les cartes événement par numéro au dos de cartes, de 1 à 3. Parmi les cartes numéro 2, mettez de côté la carte anniversaire. Mélangez chaque groupe de numéros ensemble, les 1 avec les 1, les 2 avec les 2, les 3 avec les 3. Tirez ensuite 3 cartes numéro 1, 2 cartes numéro 2 et 4 cartes numéro 3, sans les révéler. Mélangez les 2 cartes numéro 2 tirées avec la carte anniversaire. Constituez la pioche événement en les plaçant dans l'ordre croissant, les numéros 1 au-dessus, suivis des numéros 2 mélangés avec la carte anniversaire, et les numéros 3 en dessous. Étape 5. Préparez la pioche boss. Mélangez toutes les cartes boss. Tirez 10 cartes et formez la pioche boss. Placez la pioche boss au centre de la table. Étape 6. Constituez votre équipe de départ. Distribuez un leader de départ à chaque joueur. Distribuez 5 cartes personnages depuis la pioche commune à chaque joueur. Et enfin, formez votre équipe de 6 personnages. Étape 7 et dernière étape, déterminez le premier joueur. Le joueur avec le plus de vitesse d'équipe commence. En cas d'égalité, lancez le dé pour vous départager. Voici le retour des personnes qui ont lu la V1. Tout d'abord, avez-vous compris la section mise en place du jeu ? Pas du tout à 20%, oui à 20% et parfaitement à 60%. Est-ce que la mise en place vous semble longue et compliquée ? Non à 40%, neutre à 20%, oui à 20% et parfaitement à 20%. Et voici quelques commentaires qui m'ont fait quand j'aurais posé la question. La constitution précise de ce que comporte le jeu n'est pas claire. Combien y a-t-il de cartes communes, premium, événements, anniversaires ? Comment les factions se différencient-elles ? Y a-t-il d'autres types de cartes ? Dans la constitution d'équipe, il est dit qu'on distribue 5 cartes communes aux joueurs, mais qu'on doit constituer notre équipe de 6 personnages. On parle plus tard aussi de la réserve de chaque joueur, mais il n'en est pas fait mention du tout dans la mise en place. Je pense que dans cette partie, il faut plus expliquer à quoi correspondent chaque type de carte et les informations que l'on peut lire sur chaque type de carte. Un schéma de la mise en place du terrain du jeu pourrait aider à la visualisation. Je pense qu'il sera nécessaire d'ajouter un petit schéma de mise en place pour qu'on puisse mieux comprendre. Je pense que la mise en place n'est pas compliquée, mais la manière dont elle est expliquée, notamment dans les parties 4 et 2, la fait paraître fastidieuse. Je pense que le manque de description du matériel joue énormément dans ces retours. Il faudra que je fasse bien attention à ça en les rédigeant. Voilà, donc c'est la crainte que j'avais, effectivement, quand on ne décrit pas et qu'on liste pas le matériel, bah, la mise en place, elle paraît très très bizarre. Et vous, encore plus à l'oral, je pense que vous êtes un peu perdu. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, j'espère que ça va aller. J'espère que c'est audible surtout. Voilà donc pour la mise en place du jeu. Donc là, imaginez, vous êtes en train de jouer, vous avez mis en place votre jeu. L'idée que ce ne soit pas trop long, je pense que c'est un peu OK. Il y a beaucoup de mélanges, OK. Donc voilà, j'ai hâte de tester, mais voilà. Maintenant, on va passer au début d'un tour. Ça reste de la mise en place, le début d'un tour en fait. Donc ça a été assez vite au final, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et surtout, je voulais que chaque début de tour soit plutôt rapide. Je veux pas qu'on mette 10 ans à préparer un tour, c'est pas l'idée. Donc, étape 1 du début de tour. Chaque joueur obtient un ticket de recrutement. Voilà, simple. Début de tour, tu obtiens un ticket de recrutement. Deuxième étape, je l'ai appelé événement. Retournez la première carte de la pioche événement, ce qu'on a vu dans la mise en place. Appliquez les effets de la carte. C'est simple, comme ça on lit la carte tous ensemble. Elle reste active l'intégralité du tour. Étape 3, apparition du boss. Retournez la première carte de la pioche boss. Elle reste active l'intégralité du tour. Donc voilà, chacun récupère une ressource. Et ensuite, on met en place l'événement du tour et le boss du tour. Les retours. Avez-vous compris la section début de tour ? Oui à 20%, parfaitement à 80%. Est-ce que ces sections vous semblent compliquées ? Pas du tout à 100%. Bon, bah, ça a l'air d'aller, je pense que les gens ont compris a priori. Comme je disais, je ne voulais pas que ce soit trop compliqué. Et bah, ça a l'air réussi. Et maintenant, on passe à un très très gros morceau, le recrutement. Donc le déroulé du tour surtout, avant le recrutement, excusez-moi, vraiment le déroulement d'un tour. Là, on va aller dans ce qu'on fait à chaque tour, ce que chaque joueur fait à chaque tour. Le moment où on commence à se dire « Ok, je vois pas ce qu'il dit, ok, je comprends rien, dans quoi on s'engage ?» Donc déjà, à savoir, pour le déroulé du tour, tous les joueurs vont jouer les uns après les autres, étape après étape. C'est-à-dire que Joueur 1 fait l'étape 1, joueur 2 fait l'étape 1, joueur 3 fait l'étape 1, puis on repasse à joueur 1 qui fait l'étape 2, etc. etc., etc. Comme ça, voilà, c'est, déjà c'est dynamique, on attend pas 20 minutes qu'un joueur fasse son tour avant de voir le suivant. Et la première étape d'un tour, ce sera le recrutement. Et le recrutement, donc c'est là où on obtient les personnages, et bah c'est le cœur du gacha. C'est le gacha, c'est à 80% vraiment recruter des personnages. Ça rend le nerf de la guerre. Donc il fallait que ce soit vraiment satisfaisant, parce que si on n'aime pas faire ça, je pense que le jeu, il est pas ouf. Je veux qu'on ait ce sentiment de « Ah, j'espère que j'aurai ce que je veux, par pitié, voilà, je veux ça. Ah, cool, lui, je m'attendais pas à lui, mais en fait, il va venir me booster, j'avais pas vu. » Voilà, c'est, ça, c'est des trucs que j'aime bien. Et donc, il fallait que j'intègre aussi de la gestion de ressources. Parce que qu'on soit récompensé d'économiser et d'attendre le bon moment. C'est quelque chose qui est important dans le gacha, c'est « Ah, vas-y, est-ce que j'invoque maintenant? Est-ce que j'invoque demain? Est-ce que j'invoque sur la prochaine bannière ?» C'est économiser ses ressources, c'est vraiment ok. Là, il me faut un bon perso. Si je mets n'importe quoi, ça va être nul, quoi. Il faut qu'on soit récompensé d'économiser, quoi. Les cartes événements, déjà, elles sont là pour ça. Mais ça suffit pas. Il fallait vraiment quelque chose de concret, quoi, dans les règles de base. Et dans les gachas, il y a un système qui est la multi-invocation. C'est un système qui existe sous plusieurs formes. Soit ça garantit une grande rareté, donc, soit ça donne des personnages en plus, ou même on dépensait moins de ressources. C'est en gros, on invoque, je sais pas, en général c'est 10 personnages d'un coup, donc tu dépenses 10 quantités de ressources d'un coup, mais du coup tu as soit un personnage vraiment fort d'obligatoire, un personnage en plus, deux personnages en plus, etc. etc. Voilà, ça permet d'être récompensé, d'avoir économisé et du coup d'avoir invoqué d'un coup beaucoup. Et je voulais partir moi sur l'idée de la haute rareté garantie. Ça veut dire que voilà, je sais que forcément j'ai toujours un peu à chaque fois que je vais tirer un personnage un peu fort, quoi. Mais je me suis trituré les méninges, j'ai cherché, j'ai réfléchi, et je trouvais pas de moyen simple pour mettre en place ça, en fait. C'est ça le souci, c'est que vraiment je ne savais pas comment faire. Au début, je voulais faire un paquet de cartes exprès dans lequel on pioche, sauf que bah, ça rajoute beaucoup de cartes. Donc beaucoup de cartes, je commence un peu à penser à l'après, au coût de production, puis on même commence à voir, ça fait encore un paquet de cartes à trier sur le côté, à mélanger, à mettre sur le côté. Ça fait beaucoup, beaucoup de matos. Déjà qu'il y a pas mal de matos quand même, hein. Bah, je veux pas qu'il y en ait trop, quoi. Et en plus, ça venait péter le ratio de cartes et donc l'équilibrage du jeu. Parce que du coup, on inclut d'autres cartes qui sont sûrement des doublons, et du coup, ces cartes, elles viennent dire, ok, du coup, c'est-à-dire que j'ai quand même plus de chances d'avoir elles que d'autres. C'était compliqué. Et ouais, c'est, je pense que c'était pas une bonne idée. Peut-être que je reviendrai un jour dessus, mais je pense que c'était pas une bonne idée. Donc j'ai mis de côté. Je l'ai rayé dans ma petite liste. Voilà, c'était pas bien. Et donc au final, je suis parti sur la deuxième solution. Si on recrute beaucoup de personnages, d'un coup, on obtient un ou deux autres supplémentaires gratuitement. Voilà, c'est simple. C'est simple. Après, ça propose vraiment quelque chose qui s'appelle du card advantage. Donc de l'avantage aux cartes, c'est-à-dire qu'on pioche plus de cartes que l'adversaire. Donc on a plus de chances d'avoir des bonnes cartes. C'est des maths un peu basiques. Plus on pioche, plus on a de chances d'avoir de bonnes cartes. Voilà. Donc si je dépense plus, si je pense autant pour gagner plus, c'est une bonne chose. Ensuite, dans les gachas, il y a un autre gros système. C'est ce qu'on appelle la pity. En gros, si vous invoquez 50 fois sur le même personnage, vous obtiendrez obligatoirement le personnage en question. C'est ça la pity, grosso modo. Et dans notre jeu, bah, on ne pioche pas dans un paquet qui n'a qu'un personnage précis. C'est un paquet commun avec plein de personnages, plein de raretés, etc. etc. Donc je ne pouvais pas donner un personnage à un joueur. Et bah, en fait, finalement, je suis quand même reparti sur mon idée de rareté. Parce que ça reste quelque chose qui arrive, je pense, une seule voire deux fois max par joueur dans une partie. Donc c'est pas beaucoup. Et du coup, c'était un peu moins compliqué à mettre en place. Je voulais aussi qu'on puisse recruter une faction précise. Parce que, comme je disais, il faut qu'on puisse jouer avec la chance. Et donc, bah, potentiellement, essayer de focus une faction, c'est quand même important. Mais, du coup, il faut que ça vaille le coup d'aller dessus parce qu'on aura moins de personnages, mais on aura plus de chances d'avoir le personnage qu'on veut, quoi. Et c'est pour ça que j'ai intégré le recrutement premium. Avec les cartes premium, comme on a vu un peu la mise en place avant de vous lire les règles de recrutement, la plus haute rareté dans le jeu, parce qu'il y a un système de rareté que je vous expliquerai dans les règles, justement, c'est le TR. Il n'y en a qu'une dans chaque faction. Il y en a une seule par faction. Donc, si vous vous rappelez de la mise en place, il n'y en a qu'un pour chaque joueur, plus un en rab, quoi. Et je voulais pas qu'on puisse faire de la rétention de personnages unique, ni de la rétention de personnages tout court, d'ailleurs. Parce que je veux qu'on s'amuse, en fait. Il y a rien de plus chiant que quelqu'un qui va, qui a de la chance, qui a chopé toutes les meilleures cartes du jeu, qui les joue pas, qui veut juste vous bloquer, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis une règle que chaque joueur ne peut avoir qu'un seul personnage terre dans son équipe. Enfin, vers lui, d'ailleurs, mais pas dans son équipe. Et comme ça, ça permet vraiment que tout le monde joue de façon fun, quoi. Parce que, évidemment, l'argument, c'est pas contre les règles, il est très valide. Ça, je suis entièrement d'accord. Bah, du coup, moi, dans les règles, je vous dis que vous n'avez pas le droit. Voilà. Amusez-vous, bordel. Donc, on va tout de suite voir comment se joue le recrutement. Vous voyez voir, c'est plutôt rapide, mais le lexique, il y en aura quelques-uns. Déjà, la phase de recrutement, elle est optionnelle. On n'est pas obligé de recruter à chaque tour. C'est pour ça qu'on peut garder nos ressources pour recruter. D'abord, annoncez si vous faites un recrutement ou un recrutement multiple. Dépensez le nombre de tickets de recrutement nécessaire. Choisissez une pioche dans laquelle vous souhaitez recruter. Révélez la première carte de la pioche. Ajoutez-la à votre réserve. Tant que vous avez assez de tickets de recrutement, vous pouvez recruter. Voilà, simple, efficace, je pense, j'espère. Lexique. Les raretés. Il y a 4 raretés dans le jeu. R pour rare, SR pour super rare, UR pour ultra rare, et TR pour turbo rare. Chaque joueur ne peut posséder qu'une seule carte TR. Si vous piochez une carte TR et que vous en possédez déjà une, voici les étapes à réaliser immédiatement. Gardez soit le TR déjà en votre possession, soit celui que vous venez de piocher. Piochez une carte gratuitement. Entre parenthèses, elle n'augmente pas la jauge de recrutement garantie. Mélangez la carte TR non gardée dans la pioche d'où elle a été piochée. Voilà. Deuxième lexique, la réserve. Une réserve est composée de maximum 20 personnages. Si vous deviez ajouter un personnage et que votre réserve est pleine, défaussez l'une des cartes de votre réserve ou la carte que vous venez de piocher. Elle est placée en un paquet face cachée. Seul le propriétaire de la réserve peut la consulter. Troisième lexique, recrutement. Pour recruter un personnage, il faut défausser un ticket de recrutement. Les tickets de recrutement ne permettent que de recruter dans la pioche commune. Entre parenthèses, certaines cartes événements peuvent changer cette règle. Recrutement premium. Pour recruter un personnage premium, il faut défausser un ticket de recrutement premium. Les tickets de recrutement premium ne permettent que de recruter dans une pioche premium. Entre parenthèses, certaines cartes événements peuvent changer cette règle. Recrutement multiple. Vous pouvez dépenser plusieurs tickets de recrutement ou tickets de recrutement premium d'un seul coup. Cela s'appelle un recrutement multiple. Vous ne pouvez pas mélanger les types de tickets dans un recrutement multiple. Faire un recrutement multiple permet d'obtenir des personnages supplémentaires gratuitement, comme l'indique le tableau ci-dessous. 5 tickets égale un personnage gratuit. 10 tickets égale 3 personnages gratuits. Comment faire un recrutement multiple ? Étape 1, annoncez si vous faites un recrutement multiple avec 5 ou 10 tickets. Étape 2, choisissez dans quelle pioche vous voulez recruter. Étape 3, piochez le nombre de cartes indiquées dans le tableau ci-dessus. Dernier point de lexique pour le recrutement. Qu'est-ce qu'un recrutement garanti ? Un recrutement garanti survient au moment du 20e recrutement d'un joueur. À chaque recrutement effectué via un ticket de recrutement, cela inclut également le recrutement gratuit des recrutements multiples. Augmentez votre jauge de recrutement garantie de 1. Si votre recrutement devrait faire passer votre jauge à 20, révélez les cartes de la pioche choisie jusqu'à obtenir 2 cartes UR ou TR. Choisissez l'une des 2 cartes et ajoutez-la à votre réserve. Mélangez toutes les cartes révélées dans la pioche d'où elles proviennent. Cas particulier, en cas de recrutement multiple, le recrutement garanti se fait obligatoirement sur la pioche sur laquelle vous êtes en train de piocher. Voici les retours que j'ai eus sur cette partie. Avez-vous compris la section recrutement ? Neutre à 40%. Oui à 20%. Parfaitement à 20%. Est-ce que cette section vous semble compliquée ? Pas du tout à 40%. Non à 20%. Neutre à 20%. Oui à 20%. Avez-vous déjà une idée de comment gérer les ressources ? Pas du tout à 20%, non à 20%, neutre à 20%, oui à 20%. C'est plutôt positif, c'est un peu étalé quand même. J'avais un peu peur que personne ne comprenne. Je pense que ce sera plus simple avec la mise en page et également le lexique, les cartes en main, je pense que tout ça, ça va beaucoup aider. Et je pense que dès le premier tour de jeu, je pense qu'on devrait vite comprendre ça. Donc voilà, j'espère en tout cas. Bon, voilà, ça a commencé un peu à me faire peur quand même dans la liste des règles, ça. Je me suis dit que, ok, voilà, j'espère que les gens vont comprendre. Donc voilà, ça a commencé un peu à apprendre. En tout cas, je pense que ça fait déjà beaucoup d'informations. Donc on va s'arrêter là pour les règles dans cet épisode. Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin des règles du jeu. Des bisous et à bientôt.
Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société. Pour accomplir cette difficile mission, il a créé une émission, c'est Ludovision. Il s'est lancé dans un pari risqué.